Voilà, bonjour à tous. J'ai intitulé le message d'aujourd'hui « Prier sous la conduite de l'Esprit » et nous allons nous pencher sur une épître que j'aime tout particulièrement, l'épître de Jacques. Toute petite épître qui peut être lue en une fois, si un jour vous prenez le temps, il y a 5 chapitres. Par contre, c'est une épître qui demande à être digérée parce qu'elle boxe un peu, quoi. Elle donne quelques coups de poing. Pourquoi ce sujet de la prière? Car tout simplement, la semaine prochaine, nous avons une grosse échéance sur le plan mondial, sur le plan universel. Nous avons la fameuse semaine de prière universelle. Je vous renvoie vers le site du CNEF qui a fait un... Si vous allez dans l'onglet « Actualité », qui a fait un très beau présentoir avec chaque jour les différents sujets de prière pour lesquels vous pouvez prier, une petite méditation aussi quotidienne sur un psaume. Voilà, je vous encourage vraiment à la suivre et tous les chrétiens du monde, du moins évangéliques, vont se pencher sur ce même thème commun. Donc c'est quelque chose à vivre tous ensemble. C'est pourquoi j'ai estimé qu'avec cette grosse échéance de la semaine universelle de prière, nous allions parler ce matin de prière, forcément. Calvin, le réformateur, présentait la prière comme le principal exercice de la foi par lequel nous recevons journellement les bénédictions de Dieu. En hébreu comme en grec, les verbes prier peuvent se traduire par s'approcher de Dieu. S'approcher de Dieu. Quand on prie, on s'approche de lui. En tant que croyant, est-ce que ce n'est pas là l'expression de notre souhait le plus cher, de nous approcher de Dieu, de nous approcher de notre Seigneur, de nous approcher de celui qui nous a sauvés du péché? Autrement dit, la prière tient une place normalement, je l'espère en tout cas, importante dans notre vie. La religion chrétienne à cette liberté dans laquelle le croyant peut s'adresser directement à Dieu. C'est parfois un peu triste de voir d'autres courants passer par d'autres types de médiateurs pour pouvoir s'adresser à Dieu, notamment à des saints ou à Marie. Non, nous pouvons directement nous adresser à lui, et cela est possible grâce au sacrifice de Jésus-Christ. En fait, c'est lui qui a rendu ça possible, car en payant le prix de nos fautes à notre place, le Fils de Dieu nous a réconciliés avec le Créateur. Réconciliés car notre relation en tant que créature à Créateur était brisée de par notre péché. Dieu l'a rétabli grâce à son sacrifice. La connexion est de nouveau là. Le courant est de nouveau branché entre nous et notre Créateur, le Père. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. Ah, je vais avoir les mêmes soucis que la semaine dernière. En Colossiens, chapitre 1, quand il dit « Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des choses mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qu'il a livré à la mort, son corps humain, pour vous faire paraître saints, irréprochable et sans faute devant lui. Car c'est le péché qui fait que l'on ne peut pas s'approcher de Dieu. Cette grâce de pouvoir nous approcher de lui est l'une des bénédictions les plus importantes dont nous jouissons en tant qu'enfants adoptés par Dieu le Père. Est-ce qu'on en a toujours conscience? Est-ce qu'on en a toujours conscience? Pourtant, il arrive que la proximité avec Dieu ne soit pas reconnue à sa juste valeur. Quelle considération avons-nous de la prière? Cette question, nous devons vraiment nous la poser, car elle impacte directement notre relation avec lui. Dans un monde où le temps nous manque toujours plus, quelle place je donne à ma relation avec Dieu? Il y a là, en toile de fond, la fameuse question des priorités. Qu'est-ce qui compte dans ma vie? Et surtout, dans quel ordre? Comme le soulignait très justement Jules-Marcel Nicole dans son précis Doctrine chrétienne, avant d'avoir un caractère communautaire, la prière est d'abord individuelle. C'est pourquoi la prière communautaire ne peut être suffisante pour notre marche avec Christ. Néanmoins, ça ne signifie pas pour autant qu'elle n'est pas utile. La prédication sur l'épître aux Éphésiens de la semaine dernière, si vous étiez là, l'a encore démontré. Dans cette lettre, cette petite lettre de 6 chapitres, on remarque que la prière est bien présente tout le long. Déjà, au cours de l'épître, l'apôtre Paul va prier à 2 reprises, au chapitre 1 et au chapitre 3. L'apôtre nous enseigne ainsi non seulement par ses mots, mais il nous enseigne aussi par ses actes. Il nous montre, il met en action en quoi c'est important. Et au dernier chapitre que nous avons lu la semaine dernière, l'apôtre conclut avec une exhortation à la prière. En toutes circonstances, faire toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint, en particulier pour moi. Demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. Si la prière individuelle semble ancrée dans les églises d'Asie mineure auxquelles Paul s'adresse, nous constatons que Paul prie pour ses chrétiens et qu'il demande leur prière pour lui. Il y a là une réelle dimension de l'Église, la considération des frères et des sœurs en Christ, se considérer les uns les autres. Car nous sommes membres du corps du Seigneur, nous sommes chaque pierre vivante de l'édifice que Dieu construit, ce que nous dit l'apôtre Pierre dans son épître. Alors, de nombreux textes de l'Écriture abordent ce thème de la prière, qu'elle soit individuelle ou qu'elle soit communautaire. Et ce matin, j'ai décidé d'aborder cette réflexion par son aspect pratique, à partir de l'exhortation de Jacques que l'on trouve au chapitre 5 de son épître. Et je nous propose de voir ensemble 4 attitudes lorsque nous prions. S'adresser à Dieu en toutes circonstances. En toutes circonstances. La seconde, c'est que la prière est une initiative individuelle et une responsabilité collective. La troisième, c'est l'humilité et la recherche de la justice de Christ. Et enfin, prier en soumission à la volonté divine, peut-être le plus difficile ici. S'adresser en toutes circonstances à Dieu, je vous invite à lire Jacques chapitre 5, le verset 13 pour commencer. L'un de vous passe-t-il par la souffrance qu'il prie ? Un autre est-il dans la joie qu'il chante des cantiques ? Et on va déjà faire une pause ici. Une grande majorité des chrétiens admettent qu'il est plus facile de prier Dieu lorsque nous avons quelque chose à lui demander. Et souvent, c'est toujours lié. Deux mauvaises compréhensions peuvent nous conduire à vivre la prière de cette manière. Voir Dieu comme un distributeur de bénédictions, ou alors ne faire appel à lui que lorsque nous avons plus la main sur une situation. Lorsqu'on a tout tenté, c'est le moment où on finit par se tourner vers le Seigneur un peu comme la dernière chance. Lorsque Dieu est considéré comme un distributeur de bénédictions, même inconsciemment, parfois on peut le faire sans nous en rendre compte, cela biaise la relation que nous avons avec lui car elle n'est plus équilibrée. Mais elle est centrée sur nous, nous-mêmes. Le deuxième écueil, je crois, est plus courant. C'est celui qui consiste à ne prier qu'en dernier recours. Un peu comme lorsqu'on a tout essayé par nous-mêmes et que nous n'avons plus le choix, ou lorsque l'objet de nos requêtes dépasse les limites humaines. Lorsque, par nous-mêmes, on ne peut pas faire grand-chose, c'est là qu'on se tourne vers Dieu et qu'on le prie. Ces deux manières de pratiquer la prière, elles sont tristes. Car même si elles peuvent s'appuyer sur de bons fondements, comme la bonté de Dieu ou la relation père-enfant, elles ne rendent pas moins la relation avec Dieu partielle. En fait, il n'est là que quand on a besoin de lui. Dans ce verset, Jacques nous exhorte non seulement à prier quand nous souffrons, alors ça, c'est souvent ce que l'on trouve, mais aussi à chanter quand nous sommes dans la joie. Et c'est vrai que souvent, quand tout va bien dans notre vie, quand tout va bien dans notre relation avec Dieu, Eh bien, c'est parfois le moment où on le prie le moins. Vous avez remarqué, peut-être. Comment est notre relation avec Dieu lorsque nous sommes heureux? Est-ce que nous continuons de nous adresser à lui? Ou est-ce qu'on le laisse de côté pour les jours plus difficiles? Toutes les situations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sont une occasion de partage avec le Souverain suprême. C'est la relation qu'il souhaite avec nous. La relation de la liberté, la relation de la révérence, la relation de l'humilité, la relation de la crainte respectueuse, la relation de l'amour, la relation de la confiance, la relation de la fidélité. Tout ça sont des composantes de la prière. Si nous souffrons, remettons le sujet de nos souffrances entre ses mains pour qu'il nous décharge de ce fardeau et qu'il en soit glorifié. Si nous sommes dans la joie, alors disons-lui que nous sommes dans l'allégresse et partageons-la avec lui. Peut-être d'ailleurs en est-il la source. Chantons des cantiques ou des psaumes, car il est la source même du vrai bonheur. Hein. Vous connaissez de nombreuses béatitudes de tout au long de la Bible, « Heureux ceux qui… » À la pastorale d'hier, la pastorale régionale, Xavier Ducalcon, le pasteur de plaisir, nous a exhortés sur les premières strophes du psaume 119, un psaume qui parle de la loi. Le psalmiste commence direct, première phrase, « Heureux ceux qui obéissent à la loi de Dieu ». En fait, c'est la source du bonheur. Le Seigneur est la source du vrai bonheur. Le deuxième état dans la prière, c'est l'initiative individuelle et la responsabilité collective. Lisons la suite, versets 14 et 15. L'un de vous est-il malade? Qu'il appelle les responsables de l'Église qui prieront pour lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Ici, il est clairement question d'une prière communautaire. Et ces deux versets ont des choses à nous enseigner à ce sujet. Notons premièrement l'attitude du malade. Il appelle les responsables de l'Église pour qu'ils prient pour lui après lui avoir fait une onction d'huile. Cet appel démontre trois éléments. La reconnaissance de la maladie, la première. Il n'y a pas de honte à être malade. Dans notre société, nous ne sommes pas toujours prompts à dévoiler nos faiblesses, quelles qu'elles soient. Nous sommes exhortés ici à ne pas nous cacher des choses, car nous formons ensemble le corps du Christ. Vous le savez, lorsqu'un membre souffre, tous souffrent. 1 Corinthiens 12. Nous sommes frères et sœurs en Christ, nous sommes unis à lui et donc unis aussi les uns aux autres. Bien entendu, le texte ne dit pas que tout le monde doit être au courant, mais au moins les responsables ou les anciens, en fonction de vos traductions. Ici, je prends une petite parenthèse. Ce qui est intéressant, c'est que le malade est à l'initiative. Et j'ai constaté, au bout de mes quelques années de ministère, que parfois, on peut attendre des responsables qu'ils soient au courant de choses qu'on ne leur a pas dit. Je ne vais pas bien et je ne comprends pas, ils ne sont pas venus prier pour moi. Mais sont-ils déjà au courant que tu ne vas pas bien? Il y a des choses qui se voient, il y a des maladies qui sont visibles, et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Que dit ici le texte? L'un de vous est-il malade? Qui l'appelle les responsables de l'Église? Il y a là une attitude. Je me tourne vers eux et je vais leur dévoiler. Là, ils seront informés et là, ils pourront agir pour moi. Le deuxième, c'est un appel à la prière communautaire. Le malade manifeste le besoin que l'on prie pour lui. Il reconnaît ainsi l'importance de l'intercession, non seulement pour sa santé physique ou mentale, mais aussi pour sa santé spirituelle. Car on peut aller mal physiquement ou dans sa tête, mais on peut aussi aller mal avec le Seigneur. Et ça, il faut le considérer, il faut le prendre en compte. Et on peut prier ensemble les uns pour les autres pour ça. Les verbes grecs et hébreux pour intercéder peuvent se traduire par « rencontrer à la place de ».« Rencontrer à la place de ». C'est beau. Quand quelqu'un intercède pour vous, il s'approche de Dieu à votre place. Alors ça ne signifie pas que vous ne devez pas le faire non plus. Mais cela est un témoignage de l'amour fraternel et de l'unité de l'Église. De plus, l'intercession est aussi une imitation de ce que Christ fait pour nous. Et Romains 8, 34, Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il fait quoi ? Il intercède pour nous. On imite le Seigneur en intercédant les uns pour les autres. Troisièmement, c'est un acte de foi. Car en faisant cet appel, le malade témoigne de sa foi en Dieu, celui qui peut tout guérir. En réponse à cette attitude du malade, il y a la réponse collective, communautaire, car les responsables représentent l'assemblée devant Dieu. Ils prient pour leur frère ou leur sœur afin que Dieu lui accorde la guérison. Autrement dit, ils recommandent leurs membres à Dieu le Père pour que sa volonté s'accomplisse. Notons que la prière faite avec foi, et là c'est très important, n'est pas un pouvoir magique. Parfois, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Oui, mais de toute façon, si tu pries avec vraiment la foi, Dieu va t'exaucer. Comme si c'était la condition et que quelque part, ça insinue que si tu n'es pas exaucé, c'est peut-être que tu n'as pas eu assez la foi dans ta prière. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. J'ai vu de moi-même des gens détruits par cette pensée. Je croyais, je ne comprends pas. On m'a promis que si j'avais la foi, je serais guéri. Mais qui t'a promis ça ? Qui t'a promis ça ? Est-ce que c'est vraiment ce que la Bible dit ? Ou du moins, de quelle guérison on parle ? C'est ça qu'il faut creuser. Non, la prière faite avec foi n'est pas un pouvoir magique qu'on peut agiter comme ça en disant « Ah, c'est bon, ça va résoudre le truc. » Car c'est Dieu qui guérit, ce n'est pas la prière. C'est important. Pour autant, s'il n'y a pas de prière, alors pourquoi attendre de Dieu la guérison ? Là, c'est de la logique. Oui, mais Dieu sait tout. Oui, mais Dieu nous demande qu'on lui demande. La foi, c'est la confiance en Dieu, confiance en sa puissance. Il peut absolument tout guérir. C'est pour ça que Jésus, dans un épisode, est frustré qu'on lui dise « Comment ça, si je peux ?» Tout est possible. Confiance en sa souveraineté. Il est le maître de toutes choses. Rien ne lui échappe. Il n'est pas limité. Mais aussi confiance en ses décisions divines. Ah, là, c'est plus compliqué. Confiance en ses décisions divines. Même si ça veut dire qu'il ne va pas nous accorder la guérison, du moins tout de suite. Et oui, c'est ça aussi la confiance. Parce que la foi, c'est aussi la fidélité. Et d'ailleurs, le terme grec pistis, qui désigne la foi, peut aussi se traduire par fidélité. Fidélité en réponse à celle de Dieu envers nous, lui qui est toujours fidèle. Alors soyons aussi fidèles dans la soumission à sa volonté. Cette foi, le Seigneur la récompense déjà. Et oui, il donne le pardon des péchés. Et il la récompensera plus encore lors de son retour. C'est le déjà et le pas encore. Troisième attitude, humilité et recherche de la justice de Christ. Lisons le verset 16. Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande efficacité. Aïe. Confesser ses péchés les uns aux autres. On n'aime pas trop ça. Parce qu'on est obligé de dévoiler les endroits sombres de notre être. Et notre société nous invite à faire l'inverse. Sur les réseaux sociaux, on montre toujours ce qui est positif. On se met un petit filtre, de belles couleurs, un beau message bien motivant et inspirant, ou alors des rires et des moments de joie. Et si on ne se concentre que là-dessus, on ne voit que des vies parfaites, où tout va bien. Mais ça, c'est ce que les gens veulent bien vous montrer. La réalité est souvent tout autre. Ici, c'est tout l'inverse. On se montre tel que nous sommes, avec nos faiblesses et nos défauts. Il n'y a plus de filtre, il y a juste la vérité. C'est cette humilité-là qui plaît à Dieu, celle qui ne triche pas, celle qui est sincère. Et elle est récompensée, car vous le savez, le Seigneur s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Personnellement, je crois que la confession n'a pas souvent la place qu'elle devrait avoir dans nos cultes et dans nos témoignages. Et c'est bien dommage, car souvenez-vous, elle constitue l'un des éléments majeurs de notre conversion. Eh oui, la repentance. C'est quelque chose qui doit s'entretenir et qui nécessite parfois de dévoiler certaines choses. Mais pas seulement. Elle est continuelle dans notre marche avec Christ. Cette attitude ne doit pas conduire l'auditeur ou l'auditoire au jugement. Et en fait, je crois que la plus grande difficulté, elle est là. Pourquoi il y a de moins en moins de personnes qui viennent dévoiler, qui viennent confesser leurs choses? Parce qu'ils ont peur de ce qu'on va leur dire. Ils ont peur du jugement. Si jamais je lui dis ça, je vais être catalogué du pire chrétien qui existe, du mauvais pécheur que je suis. Et donc, peut-être je suis tenté de ne rien dire. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Mais cette attitude-là, elle existe souvent à cause de ceux qui entendent la confession. Parce que certains sont trop durs et ils oublient trop souvent que celui qui vient nous parler de la paille qu'il a dans son œil cache la poutre que nous avons dans le nôtre. L'attitude, c'est courageux de venir dire « Ok, je viens de parler et je viens te dire ce qui ne va pas dans ma vie. J'ai un gros péché à te dévoiler. » C'est courageux de faire ça. Hein. C'est courageux. Quelle est l'attitude aussi de ceux qui écoutent? Et là, je pense aux anciens. Est-ce que tout de suite, on va dire « On ne va pas te rater » ou est-ce qu'on va vraiment reconnaître le courage et on va faire preuve de compassion et d'humilité aussi, car nous aussi, nous sommes pécheurs. Nous aussi, nous sommes pécheurs. Au contraire, cela doit conduire à la compassion, à impulser la prière. Ça ne veut pas dire qu'on édulcore le péché. Hein. Non, on le reconnaît avec la gravité qui doit s'imposer. Mais on doit aussi faire preuve de ce que le Christ nous a montré, la compassion et l'amour. Il y a des gens à Christ qui ont dévoilé des choses graves. Hein. Et le Seigneur a été l'amour, a été compassion et il a su pardonner. Au contraire, cela doit nous conduire à la compassion, à impulser la prière pour que Dieu relève et sauve le pécheur. De plus, cette humilité sincère devant Dieu et les hommes est le fruit de la recherche de la justice de Dieu. Notre Seigneur ne nous exhorte-t-il pas à chercher d'abord le royaume de Dieu et quelque chose d'autre et sa justice? Matthieu 6, 33. Notre roi est bon et compatissant. L'apôtre Jean le dit en 1 Jean 9. Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal que nous avons commis. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Quatrième, prier en soumission à la volonté divine. Lisons les deux derniers versets qui nous intéressent. Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis, il pria de nouveau et le ciel redonna la pluie et la terre produisit ses récoltes. Ce qui est toujours intéressant dans l'épître de Jacques, c'est que parfois il y a des trucs comme ça qui arrivent comme un cheveu sur la soupe dans le texte. On ne sait pas d'où ça vient. Il peut sembler qu'il n'y a pas de lien avec ce qui est dit précédemment. Et pourtant. Les deux derniers versets que nous verrons aujourd'hui sont un argument en faveur de la prière du juste, dont il vient de parler juste avant. La prière du juste a une grande efficacité. Et il fait référence à la prière d'un prophète de l'Ancienne Alliance, le prophète Élie. L'épisode dont il est question ici se trouve en 1 Roi chapitre 17, on ne va pas le lire. Dans ce texte, l'Éternel envoie son serviteur Élie pour punir Israël et son roi de l'époque, le terrible roi Akab. En effet, le peuple juif et le roi rendaient un culte au dieu Baal, qui est la divinité, regardez l'ironie, de la pluie et de la fertilité. Ils comptaient donc sur lui pour les récoltes. Dieu va donc leur montrer avec puissance qu'il est le seul et unique vrai Dieu de la pluie et de la fertilité et de tout ce que vous voulez d'autre. Ce qui est intéressant, c'est que Jacques appuie sur le fait qu'Élie était un homme tout à fait semblable à nous. Il ne dit pas le grand Élie, l'incroyable, qui était parfait. Non, il dit un homme semblable à nous. S'il était certes prophète de l'Éternel, on voit dans le texte biblique qu'il avait aussi ses faiblesses. Et ça, j'ouvre ici une parenthèse, mais c'est un argument fort en faveur de l'authenticité de la Bible. Dans l'histoire, quand il y a des personnages importants, des rois, des seigneurs, etc., sont arrivés jusqu'à nous que les textes qui les mettent en valeur. Ils ont fait des conquêtes, ils ont gagné des guerres, ils ont été incroyables, etc. Mais jamais on ne reçoit les choses compliquées. Ils ont raté des trucs, des choses se sont mal passées, il y a eu des révoltes. C'est jamais dit, c'est toujours tu. La Bible nous montre des personnages bibliques importants, tels que des rois, avec de gros défauts. David avait fait tuer un de ses soldats pour lui piquer sa femme. Ça, ils ne l'ont pas enlevé, ça. Ils auraient pu laisser le grand roi David, tel qu'il était, beau. Ils vont montrer aussi les problèmes avec ses enfants. David était laxiste avec ses fils. C'était un mou. Et la Bible le dit, le cache pas. Et ça, c'est fort. Et Élie ne fait pas exception à cette règle. Élie est montré aussi avec ses faiblesses. Par exemple, l'épisode où il fait une grande dépression après le massacre des prophètes de Baal, 1 Roi 19. Où là, le prophète est vraiment faible. Il n'y a rien qui va. Pourtant, il vient de voir quelque chose d'incroyable avec le Seigneur. Mais il ne va pas bien du tout. Et ça, ça ne nous est pas caché dans l'Écriture. Car l'Écriture est vraie. Elle nous montre les qualités, mais elle nous montre aussi les défauts des personnages. Elle est authentique. En fait, je referme ici la parenthèse, Jacques rappelle ce fait historique fort qui parle sûrement à ses lecteurs d'origine juive pour leur montrer que l'efficacité de la prière dépend de deux choses. L'efficacité de la prière dépend de deux choses. La première et la plus importante de toutes, c'est la volonté de Dieu. Si le prophète prie, ce n'est pas pour autant lui qui aurait un pouvoir sur la pluie. Vous avez compris ça. C'est Dieu qui, dans sa toute-puissance, fait qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. Ce n'est pas Élie qui fait pleuvoir. Et c'est parce que c'est Dieu qui l'a envoyé avec sa prière, qui l'a envoyé que sa prière est efficace, mais aussi parce qu'il sait que sa prière est en accord avec ce que Dieu veut. L'Éternel a en horreur l'idolâtrie. C'est pour ça qu'il punit son peuple en ne faisant pas pleuvoir. Et par ailleurs, il montre que Baal, c'est du flan, il ne sert à rien. Une bonne partie de l'Ancien Testament n'a de cesse de le répéter et Dieu n'arrête pas d'envoyer des prophètes pour mettre en garde Israël contre ce fléau, fléau de l'idolâtrie. Fléau qui est l'objet de grandes punitions, toujours en accord avec les avertissements donnés par Dieu par la bouche de ses porte-paroles. Dieu prévient toujours et les prophètes préviennent. Ils annoncent et ce qu'ils annoncent se passe. C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît un vrai prophète. La deuxième composante, c'est l'attitude d'Élie. En obéissant à l'Éternel malgré le grand risque, et oui, plusieurs fois sa vie a été en jeu à Élie, hein. Plusieurs fois on a cherché à le tuer, hein. Mais il a été obéissant malgré le risque. Le prophète n'est pas présenté comme un surhomme, mais juste comme quelqu'un qui obéit à la volonté de Dieu, quelqu'un qui se soumet à lui malgré le risque, quelqu'un qui fait preuve de foi, même s'il a comme nous des hauts et des bas. C'est cette attitude qui honore le Seigneur. En conclusion, nous avons tous besoin de la prière. C'est un fait, j'espère que vous en êtes convaincus. Surtout, surtout nous en avons besoin lorsque nous estimons ne pas en avoir besoin. Car c'est là un danger. La prière individuelle est indispensable à notre vie chrétienne, car nous avons constamment besoin de nous ressourcer auprès de Dieu, de nous approcher de lui pour absolument tout. La guérison, quelle qu'elle soit, le soutien de Dieu dans nos luttes, la confession de nos péchés et le pardon que Dieu nous offre, mais aussi, aussi, pour le remercier pour tous ses bienfaits, pour le louer ou pour encore le glorifier. Alors, je n'avais pas prévu de le dire. J'ai un ami qui est présent ici dans la salle et qui m'a dit un jour quelque chose qui m'a beaucoup touché. Un jour, je l'appelle et je lui dis « Oui, ça ne va pas, je suis en colère, il n'y a rien qui va, le Seigneur, patati patata. » Et puis, il m'a complètement bluffé en me disant « Mais ce n'est pas vrai ce que tu dis. Tu crois que, mais ce n'est pas vrai. Ah bon, mais regarde, etc. » Il me dit « Ben, je sais pas, on va regarder ensemble, on va compter ensemble les bienfaits que Dieu te fait. » Et puis, on a commencé à les énumérer. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Et donc ça m'a permis de prendre conscience que malgré ce que moi je voyais avec mes œillères là, le Seigneur en fait est en train de montrer non. Oui, il y a des choses qui ne vont pas, c'est vrai. Mais il y en a plein d'autres qui vont bien aussi. Et ça, tu peux me glorifier pour cela. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Je ferme cette parenthèse. Bref, en fait, la prière, c'est pour partager avec lui la vie qu'il nous offre grâce à notre union avec Christ. Et là, il y a toujours plein de choses à dire. Des difficiles comme de très belles. Vous êtes tous là ce matin. C'est un sujet de joie, c'est un sujet de prière pour lequel on peut remercier le Seigneur. Pour nos frères et sœurs que nous avons là. Je vois, je ne vous connais pas encore très bien tous, mais déjà, je peux remercier le Seigneur de vous avoir. Car en fait, on est une grande famille tous ensemble. Et la prière communautaire l'est tout autant. En tant qu'Église, corps du Christ, nous devons prendre soin les uns des autres, partager nos sujets de souffrance, de maladie ou encore de joie, et surtout avoir une considération mutuelle. Mutuelle. Ça, c'est pas toujours facile, ça. Hein. Croire que nous ne prions pas assez bien et qu'alors il faut mieux nous abstenir ou encore ne pas oser prier devant les autres, ça, c'est une ruse du diable. J'en ai déjà parlé, je ne reviens pas dessus. Moins nous prions, et plus lui, il est content. Moins nous prions, et plus lui, il est content. J'ai prêché la semaine dernière sur l'armure du chrétien, Éphésiens 6. Et si la prière ne semble pas figurer comme un élément de l'armure, on peut se dire, tiens, c'est étonnant d'ailleurs. En fait, le fait que Paul l'aborde en conclusion de la description de cette armure montre bien qu'elle est comme les lanières qui maintiennent l'ensemble de l'armure, les jambières avec la cuirasse avec les gants, etc., etc. Les lanières qui maintiennent l'ensemble de cette armure. Notre Église ne doit jamais sous-estimer l'importance de la prière. Jamais. Adoptons ensemble, pour nous aider mutuellement, les attitudes qui conviennent. Adressons-nous à Dieu en toutes circonstances. Prenons des initiatives. Soyons irréprochables collectivement. Soyons responsables, pardon, collectivement. Soyons humbles et recherchons la justice de Dieu. Soyons soumis à sa volonté. Un jour, j'étais petit et il arrivait de temps en temps quand c'était un jour où on pouvait un peu traîner le matin, par exemple le samedi matin, que j'aille me glisser dans le lit de ma mère. Je venais, il faisait chaud, puis j'étais content d'être avec elle. Et donc, je fais ça un matin, et puis je lui pose une colle. Je lui dis, « Maman, c'est quoi l'arme la plus puissante qui existe sur la Terre ?» Dans ma tête, je m'attendais à une réponse du style, « Alors attends, c'est une arme nucléaire, un truc... » cataclysmique, bon c'est des questions de petits garçons, hein. Voilà. C'est quoi le truc le plus puissant qui existe? Et elle m'a répondu un truc qui m'a... je trouve ça nul comme réponse, quoi. Elle m'a dit, l'arme la plus puissante qui existe, c'est la prière. La prière, ça fait rien, la prière, c'est nul. Enfin, je sais pas, t'as pas un truc plus costaud que la prière, quoi. Hein ? Elle m'a dit la prière. Parce qu'en fait, on peut s'adresser à celui qui est tout puissant et qui peut tout. Et donc, ça en fait l'arme la plus puissante. On peut s'adresser au Seigneur quand le diable, il nous embête. Et c'est lui qui va venir régler. C'est pas les armes, les trucs, le diable, ça, il s'en fiche de ça. Par contre, la prière, il en a peur. Et ça fait de la prière l'arme la plus grande qui existe. Je ferme cette histoire qui m'a toujours marqué et que je garderai jusqu'au bout. Comme l'apôtre Paul nous y exhorte dans son épître, Éphésiens 6, 18, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint. Amen.